Alright.
Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Et
Roger les vieux papiers.
Bah oui, qui est en train de faire un bordel pas possible.
Eh oui, mais moi je bosse, monsieur, bah, je bosse, je sors les dossiers.
Oui, ça c'est sûr, j'ai ramené tous mes vieux classeurs, sans oublier notre
Tom
fidèle.
Tom et Grovitch.
Il est où
alors? Allez, voilà.
Ah oui, mais attendez.
Notre fidèle Grovitch, en ce moment, est avec sa compagne, il nous écoute sûrement, d'ailleurs je tiens à ce qu'on les salue, de la part de tous les Grignoux. Dites bonjour à Grovitch.
Moi je pense qu'il nous écoute pas.
Dites non. Bonjour à Grovitch. Oui.
Bah, qui appelle, si vous écoutez.
S'il nous écoute, qu'il appelle. Bonjour, Grovitch. Bonjour, Chloé. Et, tout va bien se passer, vous inquiétez pas.
Ça fait pas mal, c'est sans danger. C'est sans danger. Bref, vous écoutez les Grey News sur les mercredi. Et, exceptionnellement, à 20h02, 20h03, Purple Rain nous a pas encore.
Attendez, je crois qu'elles ont quitté les studios, mais quand je suis arrivé, j'ai cru qu'elles s'étaient fâchées avec tout le monde.
Oui, c'est vrai, il y avait pas grand monde.
Personne et tout.
Mais il y a pas vraiment, il y a autour.
D'habitude, il y a de la bière qui traîne, des trucs et tout, et puis là.
Et les invités sont déjà partis d'ailleurs, c'est
même plus
là.
Ouais, ça c'est bizarre, il y en a même qui ont laissé leur guitare, c'est pour vous dire. Oui.
Et pas de la bière de chez Lidl, hein. Ça je peux confirmer, mais attention.
Jamais, c'est une émission de qualité.
Tous les mercredis de 20h à 22h, tous les dimanches aussi dans l'après-midi, et sinon on peut réécouter en tapant les Grignoux sans X, sans S sur n'importe quel moteur de recherche,
sur Internet, hein.
Mais surtout Google, qui est un excellent moteur de recherche,
très bien.
Qui marche très bien.
Alors ça sert à rien d'être à l'heure si c'est pour répéter les mêmes choses que les gens connaissent à chaque fois. Pour une fois que vous êtes premier, ah bah non, vous n'êtes pas premier.
Mais tout le monde,
c'est moi qui suis premier.
Pourquoi vous mettriez pas un petit X et après on présentera l'émission.
Je vous mets ça dès maintenant.
Ouais.
Comment vous voulez. Hein.
The Strips, you can judge a book by the cover.
Ah ouais,
moi j'aime bien votre anglais.
You can't judge an apple by looking at the tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge sister by looking at a brother. By looking at the cover, oh, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right by looking at the wrong. Judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Whoa, can't you see? Whoa, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. by looking at the cover.
Voilà, ouh, hein, un morceau qui nous met bien en bouche, c'est le cas de le dire.
Bien en bouche
quand
pour
je
une
vois,
émission.
C'est dommage qu'il n'y a pas bourré. La caméra, mais encore un homme politique qui prépare ses, qui relit ses notes rapidement juste avant d'intervenir. Bref, une émission bourrée comme tous les mercredis.
Plus que bourrée, même puisqu'elle sera archi bourrée, puisque nous recevrons par téléphone tout d'abord une représentante de la société Captain Sam. Captain Sam, une société qui a pour objectif de vous ramener chez vous lorsque comme vous êtes bourré comme une vache.
Avec voilà. Votre propre voiture.
C'est avec pas votre propre voiture. On avait déjà reçu le représentant d'une tentative du même type de même principe un peu, sauf que là la personne vous ramenait chez vous, elle mettait un mini scooter dans le coffre de la bagnole et après elle repartait en mini scooter. Et comme nous l'a expliqué au téléphone.
Bah, attends, si vous êtes en train de faire l'émission, ils ont
pas. Eh bien le principe est un petit peu différent, mais et c'est surprenant, au kilomètre c'est bien moins cher que vos amis des taxis rennais. Je suis désolé pour vous, hein, mais il se trouve quand même que c'est pratiquement deux fois moins cher. Enfin, alors, est-ce que les taxis rennais sont aussi trop chers?
C'est pas mes amis taxis rennais, c'est mes
vos
amis les taxis. Tout court, tout ouais. Simplement quoi. Là, comme,
Et dans une deuxième partie d'émission, plus longuement, nous recevons, il viendra ici dans nos studios, Monsieur Johan Suan, intitulé, enfin comment dirais-je, dénommé par Ouest France, l'article où on l'a découvert. Johan Suan, le plombier humanitaire. Un plombier humanitaire, c'est-à-dire que c'est tout simplement un plombier, quoi, un artisan plombier avec ses ouvriers. Ben, de temps en temps, il viendra pas réparer votre évier bouché parce qu'il sera pas là, il sera en Inde. Et il sera en Inde à des fins totalement... je dirais humanitaire et désintéressé, tout simplement pour installer l'eau courante, de l'eau clean dans une maison. Et c'est vrai combien on a oublié
que l'eau n'est pas à disposition, enfin l'eau potable n'est pas à disposition,
et l'accès à la flotte est véritablement c'est une révolution.
Et ce qui est intéressant, parce que souvent quand on parle d'action humanitaire on pense tout de suite médecin, infirmière, sage-femme,
et là on est dans l'infrastructure,
et finalement c'est pas con.
Sans flotte on est dans la merde et dans tous les sens.
Voilà. Allez, qu'on reprenne notre respiration.
Mais tout le monde a sa respiration.
Ah ouais,
tout le monde va bien.
Je crois, demain j'arrête de fumer, je vous le promets. Demain.
Promesse de Fillon.
Oh, ça va.
Big fame, big brother, I need you, oh no, silver fox. C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, mais attends, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas.
Ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, c'est ça vous couperait.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Taisez-vous. C'est la rubrique à Roger. C'est vous.
C'est dingue.
C'est vrai, j'en ai un peu marre. Je demandais juste d'aller au bistrot pendant qu'on fait ça.
Je demandais juste, même pas à qui c'était le tour, mais quelle heure il était. Oh, taisez-vous qui me fait. Là, là.
Et oui, parce que vous parliez pendant le jingle et on allait annoncer ça. Soyez un petit peu professionnel.
Oh, bah, allez-y, Roger, mais... puisque c'est votre tour.
Allez. On va parler de l'affaire Fillon encore.
Ah, ouais, on peut le, ouais, le l'homme. Enfin.
Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est plus les à côté. Vous voyez, du coup, parce que sauf que, bah, à chaque fois, il en arrive de nouveau. Là, cette semaine, dans le Canard enchaîné, c'est le contrat avec Poutine. Sur le, alors qu'il avait juré, ses grands dieux, n'avoir eu aucun contact depuis
fort
longtemps.
C'est sa boîte. C'est pas lui, hein.
Si, mais même, il avait dit qu'il avait eu carrément aucun contact et tout ça, c'est faux pour 50 000 boules. Bref, c'est vraiment le Thénardier en diable et c'est la réaction de Jean-Louis Bourloux. Moi, j'aime bien. Bourloux.
Oui, celui qui avait plongé
ouais, dans la liche, on dit.
Non. Il a plongé dans la mer. Il a
plongé, plongé dans la mer.
Un moment pour replanter du corail.
Ouais, bien, Bourloux. Donc Jean-Louis Bourloux, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, Fillon, la vitesse où ça va, c'est pas vraiment pour l'Élysée qu'il devrait faire ses valises, mais pour Fleury Mérogis. Alors Fleury Mérogis, je tiens à le rappeler pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quand même une grosse centrale dans la région parisienne. Et il n'est pas le seul d'ailleurs à voir le candidat LR comme totalement décrédibilisé, c'est Sarko. Et Sarko, il dit, allez, une petite blague, je sais que c'est un peu facile, mais il dit, est-ce qu'on aurait imaginé le général de Gaulle se faire offrir des costumes ? Et il résume en disant, Fillon est mort de chez mort, je fais ce que je peux. Lui, ce dont il rêve, Sarko, un peu, ça serait une espèce de cohabitation un peu pourrie, vous voyez, avec Macron qui gagne la présidentielle, des députés LR qui arrivent en majorité à l'Assemblée, donc Macron, il est bien obligé de composer, vous voyez.
Si ma mémoire est bonne, c'est pas le général de Gaulle, quand il est arrivé à l'Élysée, qui avait fait installer son compteur d'eau individuel.
Un compteur électrique.
Électrique individuel en disant c'est ma consommation, je rack.
Mais autre temps, autre meurtre. Tiens, justement, autre meurtre, non pas justement pas de meurtre du tout, c'est comment on finit.
Arrêtez
avec
de parler de mort.
Meurtre. C'est un truc, je vous dis, moi c'est les à côté dans l'affaire Fillon qui m'amuse, et là j'ai trouvé un blog qui appelle au soutien pour Fillon. Je vais vous en lire quelques lignes, c'est très long, je vais pas tout vous lire, mais en tout cas le propos est assez amusant. On nous dit dans ce blog, la situation ne peut plus durer en conscience. Nous ne pouvons laisser un candidat à la future élection présidentielle se comporter comme un vulgaire schnorreur et être condamné à taper ses amis des plus proches dans le seul but de se vêtir plus ou moins correctement. Imagine-t-on seulement à quelle extrémité faut-il être rendu pour mendier de la sorte quelques milliers d'euros afin de répondre à ce simple et élémentaire besoin d'enfiler un costume. Cette humiliation de frapper à toutes les portes afin de trouver une âme assez charitable, prête à débourser quelques milliers d'euros, aussitôt dépensés à un costume trois pièces d'une facture si modeste qu'il tiendra à peine le temps d'une session parlementaire. Je le dis tout net, c'est une honte pour la fonction présidentielle, une honte pour la droite et une honte pour la République tout entière. Où est la grandeur de la France si on n'aide pas les candidat. Je parle de dignité humaine, là, quand un homme, peu importe, etc., etc. En fait, on imagine comment il nous propose tout simplement de donner des sous pour un espèce de collectif afin de permettre de rester à Monsieur François Fillon de rester propre.
Et n'empêche, malgré tout ça, alors vous allez me dire les sondages.
17,5 dans le dernier.
Ah, mais c'est le troisième homme.
Ouais, mais
c'est ça qui est délirant.
Ouais,
c'est
assez délirant.
En 4-5e position.
À 17,5, on est à 4 semaines du premier tour. Comment il va remonter de 10 points? Ça va être un petit peu chaud.
Et comment il s'appelle? Gérard Ramon. Ouais, il en est où en fait?
Lequel Gérard Ramon?
Le candidat des socialistes.
Ah, Bernard.
Bernard, ah, désolé, ah, Bernard chéri, Hamon.
Il a fait exprès. Voilà. Et il a fait exprès.
Et heureusement que je retiens Hamon parce que je connais une bonne amie à moi dont c'est le nom de famille. Sinon,
bref.
Je savais même pas le nom du candidat socialiste.
Eh bien, comment enlever lui la peau, il en restera toujours quelque chose. En bref, moi, ça m'avait gavé depuis quelques années. On entendait parler de dédiabolisation du FN, la fille est mieux que le père, patati tatata. D'ailleurs, ne sont-ils pas fâchés? Tellement fâchés, d'ailleurs, que c'est le père qui prête des sous à la fille pour financer sa campagne. On a connu des gens un peu plus fâchés. Bref, le film Chez nous, alors le film Chez nous, je le dis pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il parle, c'est une fiction, entre guillemets, qui parle de la montée en puissance d'un camp, d'un parti nationaliste et peut reconnaître dans les traits de la principale actrice les traits de Marine Le Pen. Eh bien, le film Chez nous était retiré par une mairie FN d'une salle de cinéma, la seule salle de cinéma du bled, où, alors je vous dis, ça s'appelle Luc en Provence, hein, c'est dans le Var, on va pas s'étonner non plus. Hein. Eh bien, Luc en Provence dans le Var, le maire a retiré de la salle municipale le film Chez nous. Et il le dit d'ailleurs en toute franchise, il dit, je vais quand même pas donner le bâton pour me battre. En bref, la censure est totalement assumée. Est belle.
Ça, c'est ça l'honnêteté. C'est ça, vivre ses idées jusqu'au bout. Mais jusqu'à censurer un film qui vous plaît pas.
Alors, là où ça devient un petit peu surprenant, vous savez, cette fameuse prohibition sur laquelle on fait finalement peu de partis, en tout cas pas parmi ceux qui risquent d'être élus à la prochaine présidentielle, osent se prononcer en clair. Si vous regardez dans le programme de Macron, ça sera toujours dur à l'aide sécles en ce qui concerne le cannabis. Et pouf, je tombe sur un petit article où on nous dit que le cannabis est dépénalisé, vous savez où?
Ça dépend dans pas mal de pays du monde.
Enfin, voilà, mais pas dans une région que j'ai...
Il y a des pays où on risque la mort. Hein,
un pays où on risque la mort...
Birmanie.
Non, Israël. Un pays où on risque la mort, peut-être pour d'autres raisons. Mais en attendant, Israël...
Dépénalisé, ça y est.
Dépénalisé. Et pour l'État, le ministre israélien de la Sécurité publique a annoncé hier la dépénalisation prochaine de la consommation de cannabis et la mise en place d'une politique privilégiant les amendes et l'éducation. La prise de drogue douce ne sera inscrite dans les antécédents judiciaires qu'au bout de la quatrième récidive et si elle se produit en public. La première interpellation ne donnera lieu qu'à une amende de 1000 shekels, environ 245 €.
Moi, je me souviens aussi que Sarkozy avait essayé de faire passer ça, la fête de consommer. C'était c'est pas passé, mais lui il voulait que ce soit délictuel, c'est-à-dire qu'on paye une amende pour une consommation plutôt que...
Ouais, mais ça n'a jamais été amené au Parlement, ça, en tout cas. Ah, c'est avec truc, quoi. Ah, il est sur bistrot.
C'est pas Fillon, ça aurait été Fillon, putain, ça aurait été passé en... Même
alors,
pas 23 heures.
Fillon n'est pas encore élu.
En même pas 23 heures, et là, le temps pour notre ministre de l'Intérieur de démissionner entre l'affaire et cette démission.
Là,
23
c'est
heures.
Clair qu'effectivement, au moins, on pourra dire que à ce niveau-là, il y a un parti qui aura le museau plus propre que l'autre, et c'est bien que je me rappelle même plus. Leroux, c'est ça, il s'appelle
Leroux. Hein. Pas eu le temps de voir. Voilà. Et le nouveau, il s'appelle.
Alors, c'est un technocrate. Il paraît que c'est un génie.
Ah, ça se termine. C'est guttural à la
fin.
Ouais,
c'est guttural, mais il sait qu'il va pas rester longtemps non plus. Il aura même pas le temps de le mettre de la photo de sa chérie sur son bureau.
Et petite question, est-ce que ça touche une retraite, un ministre, même quand on reste 15 jours?
Ouais, je pense.
Ah, putain, lui.
Vous devriez claquer la porte encore un peu plus fort, Tom. J'ai peur que les auditeurs ne l'aient pas entendu. Mais sans déconner, mais quand est-ce que vous allez l'élever? Hein? Quand est-ce que vous allez faire quelque chose? Ça va rester comme ça encore longtemps?
J'ai besoin de lui encore un petit peu.
Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Ça va, votre ordinateur, maintenant vous pouvez le mettre à l'endroit.
Comment feriez si j'étais pas là? Il est où votre petit?
C'est vrai.
Alors, cannabis un jour, cannabis toujours. Dans l'Oregon, à l'ouest des États-Unis, la ville fantôme de Tyler est à vendre. Elle ne compte plus que 2 habitants. Ville fantôme, 2 habitants, une école, 6 maisons, un appartement et un supermarché avec pompe à essence à vendre. Alors ça c'est rigolo parce que d'ailleurs... on peut imaginer un supermarché pour une ville comme Tyler. C'est assez rigolo. Bref, cette ville est à vendre. Alors, je ne connais pas malheureusement le prix, mais pour ce prix, toute la ville à vendre avec 100 hectares aux alentours, eh bien, il se trouve que cette fameuse ville de Tyler, eh bien, comment dirais-je, intéresse beaucoup de monde, notamment un consortium chinois qui voudrait créer un centre de retape pour les vieux. Et, plus amusant, des investisseurs d'un autre genre, des paysans intéressés par l'idée de venir y cultiver du cannabis, parce qu'à côté, en Californie, la Californie voisine, le cannabis est autorisé. Et comme c'est assez distant de la ville, assez peu distant de la ville de Tyler, ça intéresse un petit peu tout le monde.
Allez, c'est pas mal. On va se mettre une petite pause musicale et puis on continue un petit peu.
running around.
Running.
Look at.
Running.
Look at.
Merci Roger.
Un petit virée, ça fait du bien là.
Mais c'était pour mon bon vieux Tom, un bon B52.
C'est gentil.
Et je n'ai rien à lui demander, je n'ai pas encore besoin de mettre mon ordinateur à l'envers pour regarder
C'est B52 ou comment
B52. Allez, tiens, un qui a déjà la mémoire courte, c'est Macron. Monsieur Macron.
Vous l'aimez pas, mémoire... celui-là. Je suis entre Fillot et Macron, je suis
Mais en tout cas, on va pas dire qu'il embauchait ses gosses, il en a pas. D'ailleurs, il paraît que dans une interview pour Closer, il dit pourquoi il a pas eu de gosses. Ça intéresse sûrement les électeurs. Moi, je m'en fous complètement. Tout ce que je sais, c'est qu'il a la mémoire courte, et vous le savez d'ailleurs, Jean-Loup, puisque nous avions couvert, fut un temps, la fameuse opération d'extraction du sable, par chez vous,
oui,
d'ailleurs,
dans
la grande dune sous-marine.
Au large de Pérouse, pas
que
très loin
l'on veut,
des cités.
Comment éradiquer au fin de développer l'agriculture industrielle, c'est vrai qu'elle en a encore besoin. Après avoir pollué la terre, eh ben on va aller bouffer les sols marins. Tout le monde y est opposé, les maires y sont opposés, les marins pêcheurs sont opposés, les plaisanciers sont opposés. Bref, tout le monde est opposé à ça, sauf le père Macron qui, dans sa loi de modernisation de l'économie française, parce qu'il a quand même été ministre de l'économie, on a un peu tendance à l'oublier, eh bien avait signé un décret en 2015. D'ailleurs, on en avait un peu bondi là-dessus. Parce qu'on avait d'abord reçu vos invités et après pouf, il avait décidé d'accorder la concession d'extraction à la société armoricaine de navigation. Depuis, le décret a été publié en septembre 2015 et voilà, enfin il avait dit quand même bon, ils prendront pas autant que ce qu'ils avaient prévu de prendre. Mais cette autorisation qui avait suscité d'ailleurs une levée de bouclier a été gelée. Donc du coup, le référé introduit, donc on en est à ce jour. Les préfectures des Côtes d'Armor et les ces derniers n'avaient guère apprécié le pompage de la dune sans autorisation les 5 et 6 septembre 2016, sitôt rejeté par le tribunal administratif de Rennes, le référé introduit par les communes riveraines. Bref, l'affaire n'est pas encore réglée.
Ouais, puis en plus, c'est dommage que c'est tourné en MAD. Alors, vous connaissez les ZAD, les zones à défendre. Là, c'est moi, ce que j'appelle une MAD, c'est une mer à défendre. Le problème, c'est que c'est... 70 associations qui peuvent pas se blairer les unes les autres, mais qui sont d'accord sur un même point. On avait reçu le peuple des dunes, on avait essayé de le recontacter pour savoir s'il y avait du nouveau, et attendez, il y a eu scission entre les peuples des dunes est, les peuples des dunes sud, sud, sud-ouest, le peuple des dunes des Trévoux-Tréguignac et le peuple des dunes de Douarnenez.
Mais ça, ça a à voir avec votre pays, hein. C'est non, pas de ma faute, s'il passait le premier verre de Chouchen, tout le monde a envie de se foutre sur la gueule.
Ouais, mais c'est cool. Comment voyez-vous que la cause avance puisque les gens sont d'accord mais sont pas d'accord entre eux, quoi. Ah bah voilà.
Ah mais je suis d'accord.
Je sens que vous cherchez fébrilement dans les articles.
Non, c'est un article justement, c'est dommage parce que je l'ai pas.
Vous voulez que je relance un
article? Non, je l'ai pas utilisé tout de suite.
Vous savez pourquoi le parti de Macron, puisqu'on en parlait, moi je vous ai raconté l'anecdote, s'appelle En Marche.
Eh bien non.
Eh ben non. Quand je vous surprends comme ça en direct, que là vous êtes complètement zébédéné et que les bras m'en tombent. En fait, je me suis aperçu avec le fameux slogan de Alain Juppé où c'était Agi. Bien vu quand même de prendre les initiales de son prénom et de son nom. Agi, c'est pas mal fichu de manière publicitaire ou commerciale. Et en fait, le parti, le mouvement de Macron, c'est En Marche. Et En Marche, c'est les initiales de...
Emmanuel Macron.
Personne m'écoute.
Mais bon, si. Il y a plus que moi qui vous écoute.
Non, si c'est comme ça, je vais aller au kebab.
Moi je vous écoute et puis voilà.
Je ramène la kebab, Tom.
Mais non, on a laissé un temps pour montrer qu'on réfléchissait avant de vous répondre.
Vous voulez qu'on fasse des bruits.
N'empêche, il y a que moi qui ai vu ça.
Il y a que moi qui ai vu que, il ne faut pas utiliser des vibromasseurs de la marque Oui ou Ave.
Oui, non, ça, je suis d'accord.
Oui, vibe. Oui. Et vous savez pourquoi?
Oui, parce que à cause des piles.
Non, les vibromasseurs Oui Vibe sont connectés. Je me suis toujours un petit peu demandé pourquoi il fallait qu'on balance toujours des objets connectés. Sauf que, en clair, la société, le fabricant de ce sextoy a été condamné à verser 3,75 millions de dollars à des centaines de plaignants. Puisque des consommateurs tristes, mécontents, parce que ce Way ou Vibe enregistrait à l'insu des utilisateurs des données telles que fréquence d'utilisation, manière de l'utiliser, tirouli tirouli, et longueur.
Alors, c'est-à-dire justement le ça m'a l'air très intéressant.
Des statistiques précises sur la nature de son utilisation, comme la température et l'intensité des vibrations, le tout couplé à l'adresse email de son propriétaire. Tris et utilisateur Tris.
Ça, vous êtes dans le technique, dans le technique. Moi, c'est comment ça marche? Moi, c'est bizarre, en fait. C'est-à-dire que,
Vous êtes en train de me demander en direct comment on se sert d'un vibromasseur.
Mais connecté. C'est ça le...
Est l'intérêt? Non. Moi, ce qui me trouve le cul, c'est, excusez-moi, on parle d'un sujet un peu scabreux, mais. Complètement. C'est, pourquoi a-t-on besoin d'un vibromasseur? Ça, je peux le comprendre, mais d'un vibromasseur connecté.
Mais parce que vous n'êtes pas dans le fantasme. Imaginez que
connecté,
que
quel peut être l'intérêt.
Si je vous explique.
Expliquez-moi.
Vous êtes là, séparé de votre ami. Il y a un qui est à Paris, l'autre qui est à Rennes pendant quelques jours, etc.
Ah, c'est ça. Vous le faites vibroter.
Avec votre portable, clac, vous appuyez sur une touche et en visioconférence.
Oh, super.
Ils
se plaignent que leurs données soient exploitées. Mais honnêtement, moi j'aurais été juge. Les 3,75 millions de dollars, j'aurais demandé aux plaignants de les verser, parce que on tue quand même.
Mais moi, je trouve ça extrêmement imaginatif dans l'idée, après, que les données soient prises, que vous êtes un traditionnaliste, vous, dans ce domaine-là.
Déjà, j'ai accepté le vibro à pile, il a déjà fallu du temps. Mais alors, si en plus, il faut qu'il soit connecté,
vous vous rendez compte?
Moi, je préfère attendre la fin du monde.
Vous êtes là en train de discuter, votre ami vous écoute, là, hop, discrètement, vous appuyez sur une touche de votre téléphone, et je crois qu'elle va écouter beaucoup plus souvent l'émission des Grignoux.
Alors, une petite dernière avant d'appeler au téléphone notre premier invité. Le sens du commerce. Pour fidéliser ses clients, un dealer avait trouvé ni plus ni moins que l'idée d'ajouter dans les petits paquets de ce qu'il vendait une carte de gratto.
C'est pas con ça en fait.
Pas con, fidéliser les clients, et c'est grâce à ça que les flics l'ont repéré, l'ont chopé.
Comment en fait
L'article ne dit pas, mais en tout cas, il a reconnu gagner 400 € par semaine, ce qui passe quand même la paye moyenne à 2 800 €. Il va falloir que Fillon explique ça au dealer dans son plan de reconstruction de la France à 1 100 €, 39 heures payées 35.
à un petit disque et puis après on accueille notre premier.
C'est enfin moi alors. Ah bah non, c'était moi déjà tout à l'heure, il y a bien longtemps.
Ah, moi même.
C'est encore à vous.
Oh, c'est là, il a, hein.
Et vous venez de passer, mais quand vous passez vos morceaux, vous vous sauvez.
Bah oui, bah non, je vais encore me sauver, tu vois.
Voilà, allez, un morceau à vous, dans ce cas-là, là.
I'm feeling high and I'm feeling low. I'm feeling like whatever you need to know. I'm colorblind and I'm ready to go. And I'm ready to go and I'm ready to. I'm feeling high, I'm feeling low, I'm feeling like whatever you need to know. I'm colorblind and I'm ready to go.
Seems like now is my turn, now is my time, now if I learn, I will never be blind, I never go mad, doesn't mean I never go sad. Wherever you're driving us, and the mess you dropped is messed up, but a big step between us. Wherever you're driving us, and the mess you dropped is messed up, but a big step, but I'm missing a good time.
I'm feeling high, and I'm feeling low, I'm feeling like whatever you need to know. I'm colorblind, and I'm ready to go, and I'm ready to go, and I'm ready to. I'm feeling high, I'm feeling low, I'm feeling like whatever you need to know. I'm colorblind and I'm ready, and I'm ready to go.
Ooh, here you are shining open for a stand. I recall the good and the bad on the back of a mountain.
Back of a mountain.
Here you are, I'm giving it a call. Them tell them I remember. I'll recall the good and the bad and hear this. I'm glad to keep high. They having the good weight, we but to still will wait. I don't wanna be that man. I'll go straight, be having the good weight, we but to still will wait. I don't wanna be that man. Be having the good weight, we but to still will wait. I don't wanna be that man. I go straight, be having the good weight, we but to still will wait. I don't wanna be that man. Ooh la la, step by step, you stand there. Shape me, you standing. Ho, you gotta stay there. Feeling high, low profile, I so in your eye blowing. You need a moving clap as they do in the club, and they wanna keep on going. Snaps another loud clap, 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 clap as they clap in the club when they wanna keep on going. Snaps another loud clap, clap, clap.
Feeling high, I'm feeling low, I'm feeling like whatever you need.
Valium, tranxène, neuroleptique, morphine, caféine, alcool, héroïne, cannabis, gingembre, psilocybine, mescaline, cocaïne et autres substances psychotropes. Voici un dossier délicat et néanmoins réfléchi, pensé et argumenté par le staff de l'entreprise Grignou. La dope. Attention, dégâts.
Alors, je ne sais pas très bien pourquoi, effectivement, vous avez choisi ce générique. C'est votre petit, ça? C'est l'idée de votre petit?
Bah, on n'avait pas comment faire pour entrer bourré comme générique.
Ouais, ouais, bah, de toute façon, avant qu'on ait un générique neuf de nos petits, fallait trouver autre chose, je sais pas, moi. Et du con, par exemple, on le met jamais, celui-là. Bref, nous recevons ce soir Morgane. Allô?
Allô?
Oui, vous, voilà. Et ben, on vous reçoit 5 sur 5. Vous êtes là pour nous parler, de Captain Sam. Captain Sam, je l'ai découvert au bistrot. Alors, vous allez dire, est-ce que c'est un bon endroit? Ben oui, oui, c'est un bon endroit pour effectivement, découvrir votre existence, à savoir un service de rapatriement, de ce que l'on appelle en Bretagne de vieilles poches à la maison, sans que sa voiture, ni son permis, ni, un tiers n'ait à en souvrir les conséquences. C'est bien ça?
Exactement. Captain Sam, c'est une application qui permet d'être ramené avec sa voiture en fin de soirée.
Yes. Alors, quand je vous avais eu au téléphone il y a quelques temps, en fait, moi, je croyais naïvement, quand je vous ai contacté, comment avoir affaire à quelqu'un de Rennes. D'ailleurs, je vous ai demandé si vous viendriez. En fait, non, je vous appelle à Paris déjà.
Oui, oui. En fait, alors notre siège est à Paris et nous, donc, on propose nos services à Rennes, mais aussi à Caen et à Montpellier et bientôt à Nantes.
Ah ouais, quand même. Et ça s'est créé en quelle année, alors, cette histoire-là de Captain Sam?
Alors, ça s'est créé fin 2015. On a commencé l'activité fin 2015, donc sur Caen, avec une période test. Mmh. Et à Rennes, on est présent depuis fin janvier.
D'accord. Et alors, ça se passe comment, Rennes, pour le moment?
Ça se passe bien. On a des bons retours. On a des utilisateurs très sympathiques qui commandent régulièrement et avec qui tout se passe très bien.
Alors, une petite question, parce que il y a quelques années, on avait accueilli justement, ça s'appelait pas Captain Sam, mais c'était un peu le même principe. C'est-à-dire que les gens venaient en espèce de mini-scooter, ramenaient les voitures. Est-ce que vous êtes une émanation de ça, ou est-ce que vous êtes...
Ça n'a rien à voir.
Ou ça n'a rien à voir.
Tout à fait nouveau.
Alors, non, en fait, ça n'a rien à voir, même si effectivement, j'ai entendu parler de cette initiative. Alors, nous, on n'utilise pas de scooter électrique pour une raison de logistique, puisqu'en fait, les scooters n'ont pas assez d'autonomie et de puissance pour aller assez loin. Et nous, on ramène les gens jusqu'à 35 minutes autour de Rennes. Donc, c'est important pour nous de pouvoir aller assez loin et d'avoir une vitesse normale de véhicule.
Mais alors, comment ça marche, du coup? Est-ce que vous pouvez me choper la petite carte grecque? Ouais, super. C'est votre carte. Comment ça marche? Parce que moi, quand je regarde le coût, j'ai fait le calcul avec une amie, il se trouve que vous êtes moins cher que le taxi. Alors là, moi, je suis un petit peu zébédéné, parce que comment vous arrivez à vous en sortir? Parce que nos taxis, ils s'en sortent pas, ma bonne dame. Ils ne s'en sortent pas.
Alors, nous, la différence avec des taxis, c'est que donc déjà nos chauffeurs n'ont pas besoin d'avoir des beaux véhicules, puisque c'est la voiture du client. Mmh. Donc déjà, il y a un coût de financement qui est moindre, voire nul. Et ensuite, on travaille sur des créneaux assez resserrés, puisqu'on fonctionne uniquement le week-end et la nuit. Et là, c'est des périodes où on est à peu près sûr d'avoir des utilisateurs. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on arrive à être moins cher.
Alors, j'ai une petite question. Le chauffeur ou la chauffrice qui va ramener ma voiture, comment il fait pour rentrer? Il reste dormir chez moi, ou comment vous passez le reprendre, ou il repart avec ma voiture? Ça se passe comment?
Alors, on passe le reprendre. Effectivement, on a une navette en fait qui récupère les chauffeurs et qui les amène à l'utilisateur suivant.
Alors, c'est là où j'en reviens sur cette histoire de coût, là, ça faisait bénal, parce que non seulement, alors c'est vrai que le premier aller, c'est le consommateur qui paye, puisque c'est sa voiture, mais vous, ça vous fait faire un aller-retour pour, il y a donc des chauffeurs qui ramènent les clients et des chauffeurs qui ramènent les chauffeurs.
C'est ça.
Waouh.
Exactement.
Il faut...
Bah, écoutez,
Non, parce qu'on se demande justement comment vous en vivez, ou est-ce que vous avez à dégager du bénéfice, parce que c'est combien déjà le kilomètre? 1,30€, il dit pas
1,30€, ouais.
Oui, donc.
En fait, on a calculé notre business model pour nous prendre une commission et laisser le reste aux chauffeurs. Pour les chauffeurs, c'est un complément de revenu, donc c'est la différence avec un taxi. Pour eux, c'est pas une activité à temps plein. Ça leur permet d'arrondir les fins de mois sur des créneaux où ils sont disponibles, puisque c'est des heures différentes de leur métier habituel. Ouais, donc voilà.
Et les gens qui travaillent pour vous, est-ce que ça peut être par exemple un étudiant? Je suis étudiant à Rennes, je ne bois pas, j'ai le permis de conduire, pouf, ça me branche de travailler pour vous. Est-ce que c'est comme ça que vous recrutez vos chauffeurs?
Alors, on a une partie, effectivement, de nos chauffeurs qui sont étudiants, avec la limite qu'il faut qu'ils aient au moins 3 ans de permis. Donc, ça va être plutôt des étudiants en master, en général, ou troisième année au minimum. Et effectivement, on a pas mal d'étudiants qui travaillent pour nous. Ouais.
D'accord. Et sur Rennes, par exemple, l'équipe de Rennes, ça représente combien de personnes?
Au niveau des chauffeurs?
Ouais, et puis de ceux qui ramènent, etc. Ça fait un pool de combien de personnes à peu près?
Alors là, sur Rennes, donc on vient de commencer, donc pour l'instant on est à peu près à 5 personnes qui tournent le week-end, et on recrute justement pour pouvoir agrandir ce pool et répondre à plus de demandes.
Et ben voilà, c'est la première fois qu'on va peut-être chercher, on va peut-être permettre à nos auditeurs de trouver un emploi. Et comment? Donc on peut postuler en ce moment pour Captain Sam à Rennes?
Absolument. Vous pouvez postuler soit sur notre site internet, donc captain-sam.fr, soit par mail. Donc nous, notre mail, c'est contact@captain-sam.fr.
Mmh. C'est uniquement sur Rennes, ou ça peut être autour de Rennes?
Alors ça peut être un peu autour de Rennes, oui. C'est pas uniquement sur Rennes Centre, puisque nous on a pas mal de chauffeurs qui habitent juste en périphérie, c'est pas un problème.
Alors, petite question aussi, moi je suis un peu étonné, moi je suis un pessimiste de nature que ça marche, parce que les gens, ils sont pas si raisonnables que ça, surtout qu'on est en ville, ailleurs qu'on est à la campagne. Allez, on va pas prendre la voiture, on va tomber sur un barrage de flics, mais c'est vrai que c'est quand même exceptionnel de tomber sur un barrage d'alcoolémie, ça peut arriver à Rennes, et de dire, ma voiture, je vais la ramener, quoi qu'il arrive.
Bien sûr. C'est pour ça que c'est important pour nous de desservir jusqu'à 35 minutes autour de Rennes, puisque on a... Alors, on l'a vu sur les autres villes, et ça se confirme sur Rennes, on a 70% en fait de nos utilisateurs qui habitent en périphérie des villes. Donc, du coup, ils se déplacent en voiture, et si quand même, on observe, en tout cas, une
prise de responsabilité
des utilisateurs qui quand même se rendre compte que c'est un danger pour eux et puis pour les autres utilisateurs de la route.
Alors justement, vous me donnez envie de rebondir sur le fait que, alors ça va pas faire plaisir aux chauffeurs de taxi, mais bon, allez, comment, justement, est-ce que le problème du prix prohibitif pratiqué par les chauffeurs de taxi, justement, n'est pas finalement responsable de ce qui se passe quand on parle d'accident, parce que les gens disent, oh ben non, je vais pas prendre le taxi, ça coûte vraiment trop cher, va falloir qu'après je retourne chercher ma bagnole en ville.
Et il y a le prix, il y a aussi le fait de l'impossibilité d'en trouver
parfois quand on peut en trouver.
Oui, quand on peut en trouver un le vendredi ou le samedi soir.
Est-ce que donc les autorités, effectivement, comment est-ce que vous avez été voir auprès des autorités pour avoir une aide, parce que quelque part vous faites œuvre, et vous le rappelez d'ailleurs, si on va sur votre dossier de presse qu'on peut consulter en allant sur votre site, vous faites œuvre de salubrité publique quelque part, quand on voit que le nombre d'accidents, loin de se réduire, augmente quand même, bon an, mal an.
Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut dire que les taxis sont responsables, je ne pense pas.
Mais c'est rédhibitoire d'utiliser un taxi vu les prix pratiqués, il faut le savoir quand même.
Je pense que l'intérêt, nous, c'est de proposer un service complémentaire qui permet aux gens de rentrer en fin de soirée et puis surtout d'avoir leur voiture chez eux, parce que ça, c'est quelque chose qui peut empêcher les gens de prendre la bonne décision en se disant « Oui, mais bon, le lendemain, je vais quand même devoir retourner chercher ma voiture. Donc, effectivement... je pense qu'on apporte une solution à ça, et pour les pouvoirs publics, on a des bons contacts avec la sécurité routière, qui nous a mis en relation avec un certain nombre d'associations et d'organismes, et on a d'ailleurs été nominés pour. Alors ils ont créé un prix innovation sécurité routière pour toutes les startups qui essayent d'innover dans ce domaine. Mmh. Donc on a été nominés il y a 2-3 semaines
sur le
sujet. Ouais, c'était une bonne nouvelle.
Bah ouais.
Et effectivement, ouais, ils nous aident pas mal pour nous implanter dans les villes.
Alors, est-ce qu'il y a des prix réduits pour des vieux crabes comme Jean-Loup et moi, puisque vous avez passé à l'antenne?
Attendez, vous avez passé votre vie à vous faire ramener.
Je remarque, Morgane, qu'on me ramène de moins en moins. On me dit, t'as qu'à rester dormir à la maison, vous voyez. Donc, du coup, vos services m'intéressent bougrement. Une autre question, par rapport à tout ça, ça va pas encore faire plaisir à nos chauffeurs de taxi, mais j'avais cru comprendre qu'ils n'aimaient pas trop les voies alternatives de transport des gens en véhicule de tourisme, on va dire. Est-ce que vous avez déjà eu des menaces ou des genres des pressions de la part des compagnies de taxi à votre rencontre?
Alors, pour l'instant, je touche du bois, ça se passe bien. On n'a pas eu de soucis pour l'instant. Ce que j'espère, c'est que ça va continuer, parce que effectivement, on n'est pas tout à fait sur la même cible. Hein. Les taxis vont être plus sur des gens qui habitent dans Rennes même, et nous plus sur des gens qui habitent en dehors.
Et puis eux, ils ramènent pas la bagnole, tandis que vous ramenez la bagnole quand même.
Voilà, ils ramènent pas la voiture, donc du coup, on s'adresse pas aux mêmes personnes, je pense.
Puis ils aiment pas les gens bourrés. En général, ils aiment pas les gens bourrés dans leur taxi.
Oui, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'ils adorent, donc je pense qu'ils préfèrent aussi la clientèle de jour, hein, c'est plus compliqué la nuit, donc...
Alors c'est vrai que c'est rigolo parce que du coup, au final, c'est le client vomi dans sa propre voiture, en fait.
Bah, oui, effectivement, s'il y a un problème, bon, en général, on s'arrête quand même. Hein, pour...
Vous ne fournissez pas les sacs, ça peut être un petit plus. Là.
Non, alors... pas encore, c'est une idée.
Et une petite question, le service, c'est 24 heures sur 24 ou il y a des heures précises?
Non, alors c'est que la nuit, de minuit à 6 heures du matin, jeudi, vendredi, samedi.
Parce que vous savez qu'en Bretagne, on se lève tôt. Donc on boit tôt et que
bah, à 5 heures, oui, à 5 heures on peut pas rentrer.
17 heures, il y a peut-être un créneau à ouvrir.
Effectivement, si on voit qu'on a des demandes, je pense qu'on élargira les créneaux.
Eh ben écoutez, on vous remercie. Comment à moins que vous ayez. Alors donc là, du coup, je rappelle que si on veut avoir affaire à vos services, il y a un numéro. Vous allez continuer à distribuer vos petites cartes. En tout cas, ça sera sur le site des Grignoux. Tout à l'heure en rentrée, vous allez redonner des. Bah moi, on a peut-être même pas besoin. Vous récupérerez tous les liens tout seul. Jean-Louis, Tom, vous êtes grand.
Bien sûr.
Voilà. Donc on retrouvera tous les liens autour de Captain Sam sur le blog de l'émission des Grignoux. Et je crois d'ailleurs que le petit homme de Carpentras.
Oui, mais j'avais encore une question. C'est comment ça se passe avec les ben justement les gens donc c'est quelqu'un d'autre qui conduit leur voiture et est-ce que justement les gens ils disent pas attention attention à ça conduis-moi vite
Non, en général, en fin de soirée, les gens sont assez joyeux, donc ça se passe bien. On n'a pas de soucis, les clients sont très sympas.
Et petite question en termes d'assurance, vous savez que certaines assurances n'assurent pas le conducteur, si vous n'avez pas le conducteur principal, comment ça se passe?
Ouais. Alors en fait, nous, on a une assurance spécifique qui assure nos chauffeurs à partir du moment où c'est donc un de nos chauffeurs qui est au volant de la voiture et qui remplace du coup l'assurance de la voiture.
Et une autre petite question aussi pratique, est-ce qu'il y a une distance minimum? C'est-à-dire que, est-ce que je peux vous faire intervenir alors que j'habite à 2 km d'intervalle entre le lieu où j'ai un petit peu abusé et puis le lieu où j'habite?
Non, il n'y a pas de distance minimum. Il y a une distance maximum, mais pas minimum.
C'est pile poil ce qu'il nous faut.
Ouais, mais c'est moins cher qu'un ticket de métro, en fait, quelque part. Là.
Alors, on parlait recrutement tout à l'heure, comme une dernière question autour du recrutement. Il faut quand même que les conducteurs aient un moral d'acier, parce que je vais pas dire de mal de mon collègue là qui vous a posé quelques questions, mais que s'il vous dit « Allez, petit gars, tu boirais bien le coup des amis avec tonton pour nous avoir ramené », comment, il y a des questions là-dessus, quand si on vous propose le coup des amis, qu'est-ce qu'on doit dire?
Ils savent très bien qu'ils doivent dire non, gentiment, en souriant, mais quand même non.
Eh bien écoutez, on vous remercie Morgane, c'est bien pratique ça, Captain Sam, rentrer peinard sans froisser la voiture, eh bien c'est possible maintenant à Rennes, j'espère que ça va se développer, au 06 20 19 14 25, eh bien voilà.
Vous trouverez tous les contacts sur Bogé Guinou. Eh bien, on vous remercie.
Il y a une application mobile aussi.
Eh bien, on va tout mettre, tiens, je vais les télécharger même ce soir, et on qu'on nous ramène.
On peut prendre des abonnements, genre tous les vendredis.
Alors ça, on est en train de le mettre en place, ça sera bientôt possible.
C'est vrai? J'en connais plusieurs que ça m'a intéressé. Eh bien écoutez, on vous remercie. Bonne soirée.
Merci à vous. Bonne soirée.
it's all fine. My world's low, my mind goes, and you can hide. Don't know what your hinges, don't change your mind. We're always striving to get high. We're always striving to get high.
Ils ont exploré des jungles inextricables, connu la soif dans les déserts brûlants, découvert des sommets drôlement hauts, côtoyé les sauvages les plus primitifs. Et toujours ils sont revenus chargés d'anecdotes croustillantes. En tant qu'anthropologue, ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace intersidéral pour rencontrer ces étrangers des autres pays qui sont pas comme nous.
Enfin, ils sont presque comme nous, puisqu'en tout cas, en ce qui concerne notre invité, Johan Suan, bonjour.
Bonjour.
Je prononce bien votre nom de famille?
Ah, parfait.
Ouais, super. J'ai pas trop intérêt à mal me prononcer votre prénom, parce que vous êtes plombier. Les plombiers, c'est des gens touche à tout, genre c'est quand même pas des criquets.
Non, donc, pas commode.
Voilà, et pas
et
commode.
Et c'est des gens à qui il vaut mieux être poli, voire ouais. même ami.
Écoutez, ouais, moi j'ai pas un ami toujours. Qui est plombier. Il y a aucun problème, je tiens à le vénérer encore une fois, même si c'est même plus mon plombier, je le vénère encore, c'est vous dire.
Et en tant que plombier, est-ce que vous avez plein d'amis autour de vous?
D'amis.
Johan, j'ai une petite fuite.
On est bien accueillis chez les clients.
Et par contre, avant d'aborder le vif du sujet, j'ai tout de suite, dès que vous êtes arrivé, votre professionnalisme, vous avez visité les sanitaires de Canal B, voir s'ils étaient en ordre.
Et apparemment, tout va bien. Non,
ils sont parfaits, avec un bâton à refixer, mais je vous donnerai ma carte tout à l'heure.
Hors antenne, je vous parlerai d'un problème d'évacuation, et vous allez voir, c'est pas piqué des nerfs.
Bref, les amis.
Si on vous invite ce soir, c'est pas pour parler de plomberie, c'est tout simplement parce que, dans Ouest-France, j'étais en train de dire Ouest-France, et puis pouf, je découvre votre photo en compagnie de vos deux filleules.
Oui.
Ça se passe en Inde. On vous voit en photo, d'ailleurs, avec vos deux filleules, puis avec un petit gars en train de tourner un robinet. Et vous n'êtes pas simplement plombier, vous êtes, selon Ouest-France, un plombier humanitaire, puisque vous allez, en l'occurrence, en Inde. Vous allez nous dire si vous avez été ailleurs, ou bref, ou pas, comment ça s'est fait. Mais vous allez en Inde, régulièrement, et vous installez un bien que nous avons presque l'habitude de maintenant
d'oublier, de mépriser,
voire même.
Voire de gaspiller.
On n'imagine pas à quel point, effectivement, bien avant les 40 ports iPod de votre nouveau
portable,
eh bien, tout simplement, un robinet où il y a de l'eau courante et de l'eau qu'on peut boire, c'est une véritable révolution.
C'est ça.
Et donc, du coup, vous, vous faites ça. Et ben, on a envie de vous demander, ben, on va commencer par le vif du sujet, histoire de se mettre en bouche. Donc, vous êtes plombier, ça a toujours été une passion pour vous, la plomberie. Vous êtes,
ben, comment plus, vous êtes devenu plombier, en fait?
Et compagnon du devoir aussi.
Oui,
c'est ça que j'ai noté.
Ce qui n'est pas rien, quand même.
Ben, j'ai intégré le métier de plombier il y a un peu plus de 15 ans. Et en fait, j'ai fait une formation de base, hein, on appelle ça les bac pro, hein, bac pro sur 2 ans, et j'ai intégré les compagnons au début des années 2000. Et là, j'ai fait mon tour de France, donc j'ai un petit peu voyagé. J'étais pas mal dans le sud de la France, La Rochelle, Cannes, Toulouse, Bordeaux, et je me suis retrouvé sur Cannes. Et là, on m'a proposé un poste de responsable des maisons de compagnons. Sur le département 22, 56 et 35. Je dis, bah, pourquoi pas, on y va. Et j'ai fait cette mission de directeur pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui souhaitait trouver un repreneur. On s'est bien entendu. Et bah, du coup, je me suis lancé dans cette aventure, et j'ai racheté cette entreprise il y a 7 ans. De fil en aiguille, on a développé, et là, aujourd'hui, on est une petite douzaine.
Oui, quand même. Et une petite question, c'est quoi le compagnonnage? Je vais y arriver. Moi, je vois, c'est un peu la Rolls Royce de l'apprentissage, quelque part. C'est quoi le principe? Il y a un Tour de France.
C'est ça.
N'importe qui n'est pas forcément admis. Comment on rentre, comment on devient compagnon?
Bah, l'idée, en fait, déjà, faut avoir une formation de base, soit avoir
un
fait son
pro,
apprentissage, ou un CAP,
ou
un bac pro. Et pour ceux qui veulent se perfectionner, en fait, ils vont prendre contact avec les compagnons. Et donc, il y a une petite sélection, hein, qui contrôle, en fait, les bases, hein, la culture, les bases générales.
Du métier.
Du métier, et aussi le français, les maths, etc., que la personne sache bien lire et écrire. Et à partir de là, s'il a accepté, le principe, c'est qu'il fasse son tour de France pendant 4 à 6 ans. Chez les plombiers, il va changer de ville tous les ans. Et l'idée, c'est que à travers ce tour de France...
Ça dure combien de temps?
4 à 6 ans.
Ouais, 4 à 6 ans. Ouais.
Et l'idée, c'est que pendant ce tour de France, c'est que il travaille dans des entreprises. Donc en fait, l'idée d'aller de région en région, il va développer des compétences, il va découvrir un savoir, des techniques différentes, il va acquérir un savoir-faire, il va suivre des formations en parallèle. Et en fait, l'idée, c'est que le compagnonnage, les compagnons, les personnes un peu comme je fais et comme d'autres compagnons font dans la région, l'idée, c'est qu'on les accompagne, on leur donne les outils pour s'élever en tant qu'homme sur le point de vue personnel, mais aussi sur le côté professionnel.
Ouais, il y a un petit côté philosophique aussi derrière les compagnons. Est-ce que ça remonte à quand, ça, les compagnons du devoir? J'ai pas bossé avant, excusez-moi, j'ai pas vérifié.
Moi non plus.
On est un peu comme des cons. Mais bon, Tom va sûrement vérifier les origines du compagnonnage.
Il y a un certain sacrifice en termes de salaire quand les compagnons ne gagnent pas des milliers et des cents.
Sur le Tour de France, on est ouvrier. Donc on a le salaire d'un ouvrier, et c'est ça qui est sympa, c'est pas que... On a des revenus de ouvrier lambda. Hein,
normaux, on va dire. Normaux. Enfin, classique pour la profession.
En fait, on a le salaire qui correspond à sa qualification, à ses compétences.
Et c'est des boîtes qui vous accueillent. C'est-à-dire que dans votre Tour de France, est-ce que c'est pas justement le rôle de la maison des compagnons de gérer ça, c'est-à-dire le circuit des apprentis, enfin des compagnons, pardon.
Ouais, c'est géré justement par le responsable de la maison, là, de local. En fait, le responsable, nous on appelle ça le prévôt, on peut appeler ça un directeur.
Ouais, prévôt, c'est marrant ça. Non, mais c'est intéressant.
Regardez
qu'au Moyen-Âge, mais est-ce qu'il va faire quelque chose plutôt que de regarder des sites de cul, votre petit? J'en ai marre.
Il est en train de caler le morceau suivant.
Il lui faut 20 heures pour caler des morceaux comme ça. Je sais pas s'il y a des compagnons dans les techniciens de radio, mais si vous en connaissez un, moi je suis preneur,
on prend même deux.
Je n'en peux plus. Après 2 heures qu'on lui dit de regarder ça. L'histoire du compagnonnage. C'est quand même ça.
Et c'est vrai que les termes, un prévôt, ouais, ça fait très moyenâgeux.
Oui,
quelque part.
On dit que l'origine des compagnons date du Moyen-Âge. Après, il y a des termes qui sont restés dans...
Ouais, parce que prévôt, ça fait... Il y avait le prévôt des marchands à Paris, je me rappelle, puisque j'ai vu encore un documentaire l'autre jour. Le prévôt des marchands, Étienne Marcel à Paris, qui luttait contre l'anglois. Et c'est intéressant, prévôt, ouais, on est en plein Moyen-Âge, là.
C'est ça.
Et je disais qu'il y avait peut-être un peu aussi un côté pas philosophique ou moral autour de ça. Est-ce que
le travail
de ça,
bien fait, non, il y a la perfection.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus, parce que c'est pas simplement aller dans une autre ville, à Nîmes, par exemple, ou Marseille, pour faire une année à Nîmes, une année à Marseille, etc. C'est autre chose aussi. Il n'y a pas une espèce de philosophie du travail autour de ça.
On va leur donner, en fait, des outils, alors sur l'aspect, on va leur donner des enseignements sur la façon d'être. En fait, on va faire en sorte qu'ils s'élèvent humainement par leur métier. C'est-à-dire que on leur enseigne quand même, mais qu'est-ce que le travail bien fait. On leur enseigne et on renforce surtout en fait les principes, les valeurs que peuvent donner leurs propres familles. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure de leur parcours et quand ils font un travail, faut qu'ils soient fiers de leur travail et que le travail soit bien fait.
Alors j'ai cru savoir, je me gourre peut-être, est-ce qu'à l'issue de votre Tour de France, vous n'avez pas une œuvre à réaliser? Il y a pas quelque chose comme ça?
Si, il y a un chef-d'œuvre à faire.
Il y a un chef-d'œuvre et vous l'avez fait, vous?
Oui, à Toulouse. Oui.
Alors, dans la plomberie, qu'est-ce que ça peut être, un chef-d'œuvre?
On peut faire plein de choses en plomberie, parce que c'est un beau métier.
Je crois que c'est surtout un des métiers les plus complets, parce que quand on est plombier, il faut qu'on soit maçon, parce que quand on pète un mur, il va bien falloir le refaire. Il faut qu'on soit un peu électricien, parce que s'il y a des trucs électriques qui passent à côté, il faut savoir les gérer. Je crois qu'il faut savoir tout faire quand on est plombier.
C'est un métier qui est très diversifié. En fait, on touche à tout. C'est-à-dire qu'on va faire un chantier chez le particulier, comme dans du petit collectif ou dans de la grosse collectivité, ça va pas du tout être les mêmes compétences et les mêmes matériaux. Donc, et là, c'est là où le Tour de France et voire maintenant l'international, parce que le Tour de France est ouvert au monde. L'intérêt de voyager comme ça, justement, ça permet de se perfectionner dans tous ces domaines. Et en fin de Tour de France, en fait, il a acquis un tel savoir-faire, telle compétence que il a toutes les armes pour devenir à son compte ou pour devenir cadre ou responsable. Alors le fameux chef-d'œuvre, il se fait en fin de Tour de France.
Oui. Le chef-d'œuvre.
En fait, le concernant, moi j'ai fait un lustre parce que
en plomberie.
En plomberie, oui. Donc j'étais un petit peu rebelle, c'est-à-dire
pour la soudure. Ah ouais, là c'est punk, vous êtes arrivé les cheveux peints orange et vous leur avez dit non, moi ça serait un lustre.
Les préjugés des gens sur le métier de plombier, mais qu'est-ce qu'un plombier peut faire d'esthétique? Je dis mais là c'est un sacré défi. Je me suis dit tiens, je vais faire quelque chose pour la Maison des Compagnons de Toulouse qui va permettre de valoriser déjà la maison mais aussi le métier de plombier. C'était un petit défi. Donc en fait, j'ai fait un lustre avec des jeux de lumière, avec une flamme en inox, avec des jeux de lumière qui fait qu'il y a des reflets au plafond, etc. Donc c'est... Ça fait un petit peu plaisir.
Est-ce que c'est pas un peu du coup parce qu'il doit y avoir chaudronnier aussi qui doivent faire à peu près des trucs dans le même style où il y a de la soudure, il y a de la métal.
Alors il y a des le métier de plombier c'est tellement polyvalent que il y a des métiers qui copient sans doute.
Sur votre plus vous avez soudé plein de pièces qui rappellent la plomberie. Est-ce que c'est ça?
Il y a plusieurs matériaux en fait. Non, c'est du tube que j'ai travaillé. Et par contre, j'ai utilisé des tôles d'inox que j'ai travaillé avec des méthodes de chaudronnier, effectivement.
Okay. Comme quoi, c'est complet comme métier.
Ah ouais.
Et donc, en fait, c'est pas quelque chose d'utilitaire, un chef-d'œuvre. C'est plutôt un assemblage de techniques ou d'hérité. Je vais y arriver.
Dans les grandes lignes, en fait, à quoi sert le chef-d'œuvre? Déjà, c'est ce qui permet d'accéder au titre de compagnon. Ça veut dire que, en fin de Tour de France, on va démontrer aux compagnons tout le savoir-faire qu'on a pu acquérir en fait pendant notre parcours. Et une fois qu'on a fait notre chef-d'œuvre, donc on se dépasse, hein, c'est un peu comme les pièces de meilleur ouvrier de France, hein, c'est des pièces qui sont assez prestigieuses. On présente aux compagnons et si les compagnons jugent que la réalisation, le chef-d'œuvre est suffisamment acceptable, on le reçoit en tant que compagnon. Ouais. Et là, il a le titre de compagnon et quand on a le titre de compagnon, c'est à vie. C'est-à-dire que le principe du compagnon, c'est de retransmettre son savoir. C'est-à-dire que, par exemple, personnellement, pendant mon Tour de France, il y a des anciens, les sédentaires que je suis aujourd'hui, m'ont accompagné, m'ont suivi, m'ont donné des astuces techniques. Mais ça allait plus loin que ça. C'est-à-dire que humainement, il y a des moments, quand on fait le Tour de France, c'est un vrai labyrinthe, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de doute. On est à l'autre bout de la France, on rencontre une copine, on se dit tiens, je vais arrêter, on remet tout en cause. Il nous accompagne sur l'aspect personnel, familial et professionnel.
Et vous-même, vous accueillez des compagnons dans votre société?
Dans l'entreprise, j'ai 3 apprentis.
D'accord.
Et des compagnons sédentaires aussi.
Il faut être compagnon pour pouvoir accueillir des apprentis compagnons.
Pas forcément. N'importe quelle entreprise peut recevoir des compagnons.
D'accord.
Il fallait que ce soit dit tout ça. Ouais, alors justement,
pour clore le dossier compagnon, est-ce que vous avez bossé?
Il a la réponse.
En fait, alors la page Wikipédia, elle est pas très claire.
Oui.
En fait, déjà, ils arrivent pas à définir ce que c'est que le compagnonnage.
J'ai pas besoin de savoir.
Mais bon, bref,
c'est un peu. Il y a, il y a Charles VI.
Oui, bien sûr.
VVI, qui dit, qui a mis un truc apparemment qui parlait de compagnons qui date de 1420.
Dans 15e siècle, Moyen-Âge.
Voilà.
Bien.
Eh ben, il a pas branlé grand chose. Et Wikipédia, eh ben, purée.
Allez, on s'écoute un petit disque et après on va attaquer le vif du sujet. Mais c'était important, je pense, de parler de.
Et je crois d'ailleurs que les deux sont peut-être quelque part liés. Quand vous disiez l'élévation humaine par le métier, est-ce que c'est pas à travers ça qu'on peut retrouver ce qui oriente un petit peu votre vie maintenant?
Après, sûrement, ça doit influencer, inconsciemment, ça doit influencer.
Parce que c'est un peu comme ça, moi, que je les voyais, les compagnons, c'est-à-dire des gens qui ont, Alors, ça, sûrement, complètement à contre-propos, mais c'était un petit peu aussi, quelque chose d'humaniste à travers cette démarche manuelle.
Bah écoutez, on en saura un peu plus après le disque, c'est parti.
Et sûrement pas grâce à votre petit, hein, c'est clair.
C'est cuit.
From early morning until late at night, you can call me at any time. 'Cause I'm the hardest working woman in town. Ain't nobody gonna mess me around. 'Cause I bring the groove
up and down,
round and round. Gonna pitch a wang dang doodle straight to you, straight to you. Through the sunshine, through the rain, on solid beat, I feel my day. I'm the star that shines so bright. I'm from the land of endless night. Round and round, gonna pitch a wing and doodle straight to you, straight to you. I can tell you, 'cause I learned the hard way. You got to deceive me. Or turn yourself around. I'm the hardest working woman in town. Some people call me the midnight train. I'm a dancing hurricane. I pass busy cities and countryside. I can take you for a special ride. 'Cause I'll bring the groove
up and down,
round and round. Gonna pitch a wang dang doodle straight to you, straight to you, baby. I can tell you, 'cause I learned the hard way. You've got to TCB, to TYA. You've got to TCB, TYA.
Voilà, nous accueillons toujours Johan. Alors, on nous a parlé un petit peu de son parcours, du compagnonnage. On a appris des choses. Alors justement, vous montez votre entreprise une fois que vous êtes compagnon. Et qu'est-ce qui s'est passé pour faire ce qu'on pourrait appeler l'humanitaire ? Il y a une rencontre, une prise de conscience ? Comment ça s'est passé, en fait ?
Bah, le moment déclencheur, je ne sais pas. En fait, ça faisait plusieurs années que je voulais faire de l'humanitaire, sauf que c'est comme tout, quand c'est nouveau, on a peur de franchir le pas, on a peur de l'inconnu. Et en fait, j'ai dû mettre peut-être 6, 7 ans, 8 ans avant de mûrir la chose. Et en fait,
Puis vous avez une entreprise à faire tourner aussi. En début d'entreprise, c'est un peu compliqué aussi, peut-être.
Oui et non. Après, c'est vrai que le moment déclencheur, je me suis retrouvé là. En fait, j'ai racheté l'entreprise il y a 7 ans. Ça s'est développé. Chaque année, ça s'est développé. Et on a continuellement une pression par la société qui veut ça. Hein. C'est mm-hmm. le monde de l'entreprise, on a une pression quotidienne. Et je me suis dit... il y a peut-être un moyen de décompresser et de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire revenir aux principes et aux valeurs de base. Et ça faisait quelques années que je voulais faire de l'humanitaire, et en fait il y a eu un moment déclencheur, et c'est là où je me suis dit je me sens mûr aujourd'hui pour franchir le pas, et j'ai contacté une ONG qui s'appelle Mission Humanitaire, et ça s'est déclenché comme ça. En fait, je suis allé faire un séminaire à Tours, pour découvrir un petit peu
leurs actions, etc.
Leurs actions. Et il s'est avéré que le président, en fait, de l'ONG, avait son grand-père qui était compagnon.
Ah, c'est bon.
Donc il y a eu un petit déclic.
Oui, compagnon, on se comprend, je pense.
Et en fait, il me dit, vous êtes, il me dit, t'es plombier, t'as ton entreprise, c'est génial. Il me dit, en Inde, on a eu des inondations, c'est une catastrophe, on a vraiment besoin d'avoir un plombier qui puisse intervenir. Il y a plein
pour refaire le circuit de flotte, etc.
Au début, c'était très flou. De toute façon, l'humanitaire, c'est très...
quand on y va, on sait pas
Il y a la théorie, les informations qu'on nous donne, alors le problème de la traduction, la traduction de différentes langues et les informations qui viennent de l'autre bout du monde, et on nous dit, il y a des dégâts des eaux, on sait pas trop où on va. Et en fait, ça s'est lancé comme ça. Et il m'a dit, tu vas partir avec une équipe de bénévoles qui vont faire des actions de santé, en fait, dans des villages, dans des maisons de protection de l'enfance. Et ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que
Alors, vous débarquez, vous êtes parti tout seul la première fois?
Alors, la première fois, je suis parti avec à peu près 12-13 bénévoles, issus de toute classe sociale, tout âge.
Pas de votre commune, de toute la France.
Ah, de toute la France. Hein.
Mmh. Et des plombiers ou différents corps de métier?
J'étais le seul plombier, ouais.
Et vous êtes parti sur votre temps de vacances?
J'ai pris 15 jours, ouais.
D'accord.
J'ai pris 15 jours de vacances. Et en fait, l'ONG m'a dit, ça serait bien de réviser la plomberie dans une maison de protection de l'enfance, donc à Gobalpur, dans le sud-est de l'Inde, et de voir toute la partie plomberie dans un camp de réfugiés tibétains. Il m'a dit ça serait bien qu'on mette en place une petite formation pour les réfugiés tibétains, parce qu'en fait c'est un camp de réfugiés c'est une terre où se retrouvent les tibétains, et il y a 4-5 camps. Et en fait, ça date de la colonisation. En fait, ça fait plusieurs années. Et la plomberie est vraiment vétuste, et ils savent pas la réparer.
Et donc, le but, en fait, c'est pas de réparer, c'est de former.
C'est de former, complètement.
D'accord. Alors, par contre, petite question, vous débarquez en Inde. Je pense que vous avez jamais été de votre vie.
Non.
C'est une sacrée claque dans la face, non?
Je voulais pas y aller, moi.
Vous voulez pas y aller? C'est vrai.
J'imagine.
Pourquoi?
Je voulais faire d'abord l'Afrique. Je voulais faire un pays. Me préparer, faire une sorte d'apprentissage.
Vous pensiez que ça serait moins dur que l'Inde?
Ouais, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas.
Je suis pas sûr que ce soit moins dur, en fait.
Bon, je suis parti. Après, il m'a dit, tu vas en Inde, j'ai besoin de toi. Bon, on y va.
Bon, ouais. Et alors, vous déboulez, claque dans la tête ou... Enfin, je sais pas, le choc culturel,
Sur place, non. C'est au retour, on a un peu plus le choc culturel, parce que en Inde, c'est un pays qui est vraiment à part. Hein. On passe d'un extrême à l'autre. On remet tout en cause.
Donc la région où vous avez été, on est dans le sud-est de l'Inde. Est-ce que c'est une région particulièrement sous-développée ou dans la moyenne de ce qu'on peut trouver dans les campagnes en Inde?
Ouais, c'est une région qui est assez pauvre. Mm-hmm. Ouais, qui est assez pauvre et
Alors justement la question, puisque vous êtes plombier, est-ce qu'il y a de l'eau justement?
Alors les installations, oui, il y a de l'eau, hein. C'est-à-dire qu'en fait il y a des puits. Et ils ont un système de pompage, en fait, qui vont pomper l'eau du puits et ils vont le stocker dans des ballons, dans des gros ballons qu'il y a sur les toits de maison. Mmh. Et en fait, ces pompes, en fait, elles sont allumées que 1 ou 2 heures par jour. Donc ils font le plein pour toute la journée. Et après, c'est le poids de l'eau qui fait que
ça descend dans les conduits.
Ça descend dans les conduits, dans les bâtiments.
Est-ce que cette eau est de bonne qualité?
Oui,
ils n'ont pas besoin d'affilter.
Avec nos normes occidentales, est-ce qu'elle est potable, en fait?
Moi, j'en prendrais pas.
Ouais, c'est la touriste assurée, quoi. Et eux la boivent, par contre.
Ils sont habitués.
Ils n'ont pas le choix.
Ils ont pas... après ils sont nés, ils ont grandi avec cette eau, hein, donc ils ont les défenses immunitaires que nous on n'a pas. Hein.
D'accord. Donc vous l'eau déjà là, vous la buviez pas.
Ah non, l'eau en bouteille.
Ok. Et alors votre boulot, est-ce que ça a été comme disait Jean-Loup de former ou de réparer
alors, les deux.
C'est un peu les deux. En fait, l'idée, moi, le principe que j'ai de l'humanitaire, c'est pas de donner de l'argent, parce que ça, pour moi, ça a pas d'intérêt. C'est d'accompagner les gens et de leur donner les outils, le savoir-faire ou les outils pour qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes. Donc là, l'idée, en fait, c'est que on a été faire le repérage, en fait, des camps de réfugiés tibétains. On a vu les travaux. Moi, j'avais ramené une caisse à outils que j'ai laissée sur place avec du matériel
ouais, c'est à souder des trucs comme ça.
Non. Non, parce que en fait, c'est de la plomberie anglaise. Hein. Donc,
alors, c'est que ça marche comment la plomberie anglaise? C'est du plastoc.
C'est ça.
Du rustique.
C'est ça, c'est du plastique. C'est du plastique et c'est du tube en acier. Ouais. Et tout est vissé. Alors, par contre, c'est des
diamètre à l'anglaise, c'est 3 inches, 20 pouces.
C'est du matériel assez particulier et du coup, ce que j'avais ramené de France n'allait pas, forcément.
Putain de roast beef. J'ai cru même savoir que dans les piscines, il nage à gauche. Mais il faudra le vérifier. Voilà. Et donc, du coup, rien n'allait. Donc, vous avez dû jurer mille bon Dieu en arrivant.
En fait, tout prend des ampleurs en Inde. C'est-à-dire que je vois l'exemple d'une intervention dans une maison de protection de l'enfance où l'idée c'était de remplacer des robinets qui étaient fuyards. En fait, ils avaient déjà, ils ont du mal à avoir de l'eau et en plus de ça, les installations elles sont tout le temps en train de fuir.
D'accord.
Donc là, on voit sur l'article d'ailleurs, on voit le jeune qui est à côté de moi.
Ouais, le petit gars.
Gars. Sauf que c'est des tuyaux en plastique qui datent des années, on va dire des années 50. Oh, et en les touchant à peine, ils ont pété. Donc le problème c'est que trouver des raccords ou trouver un magasin c'est tout de suite compliqué, donc je me suis retrouvé à chauffer du tube plastique sur un feu en bois dans la cuisinière et pour le rendre mou et faire une emboîture, faire un raccord et se débrouiller.
Et ça marchait?
Oui, ça marche. Ça fonctionne.
Et donc c'est le monde de la débrouille, il y a pas un monsieur bricolage à côté qui
va nous... Non.
Et vous avez appris les choses finalement en y allant en termes techniques, du style des trucs que vous
techniquement avez... non, mais on fait avec ce qu'on a. On apprend à se débrouiller, c'est-à-dire que c'est vrai que si on y va avec les habitudes françaises, c'est-à-dire on a tout ce qu'il faut, on a les magasins avec les rayons à abondance, avec tous les choix possibles, ça peut pas fonctionner. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que nous on a tendance à certains ouvriers qui dès qu'il manque un raccord, ça y est, ils arrêtent de travailler. Il faut qu'on aille faut aller chez le fournisseur, etc.
Oui,
là-bas on peut pas, on se débrouille, on fait avec ce qu'on a.
On écoute un petit dix et puis après on va continuer.
Ouais, on a plein de questions à vous poser sur.
Dance me and show me the first part. Pay close detail to the mood in every jar. An escape voice speaks from corner room to boarding a plant so you can pass an arrow truth. Everyone else follows through. And you speak for men, the hope you're selling off sorry things to your lungs. And the pen of tomorrow reminds me of them, does not remind me of your horse. Remind me of the young. Just dance me in. Just dance me in. Just dance me in. Dance me in. Dance me in. Telling of sore things to your lungs. And the pen of tomorrow reminds me of them, does not remind me of your horse. Remind me of the young.
until their terms had at last in my talk went and wait for answers. I'll wait for answers, just dance me in. Dance me in.
Voilà, on est toujours en compagnie de Johan, on est toujours en compagnie donc de ce plombier compagnon et humanitaire, et on avait commencé un peu à aborder ses missions. Donc on est dans le sud-est de l'Inde. Comment vous faites-vous pour expliquer? On est en Inde. Est-ce que vous avez commencé à apprendre la langue locale? Vous avez pas été, donc on a parlé de votre premier voyage, vous n'avez pas fait qu'un.
On a fait un deuxième, oui. Il y a 3 semaines.
Voilà, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour vous contacter, parce que j'avais lu l'article dans West France. J'avais que vous alliez repartir, j'avais pas trop bien compris quand.
Donc vous déboulez là en fait de quasiment.
Bah, je suis revenu,
de...
oui, attends, il y a à peu près 3 semaines. Oui.
Ah ouais, mais enfin quand même, c'est.
Vous n'êtes même pas parti seul cette fois-ci, si j'ai bien compris. Vous avez même emmené, convaincu certains de vos employés d'aller avec vous.
Oui, oui, ah. Oui. Bah là, l'idée, c'est de, en fait, la mission de l'année dernière a été réussie. Et le responsable, en fait, le président de l'ONG m'a dit, bah tiens, ça serait bien que tu t'occupes un petit peu du pôle plomberie dans l'association. Je dis, bah tiens, pourquoi pas, hein. Moi, tu me dis où il y a des besoins, on y va. Hein. Et il me dit, bah tiens, en Inde, ça serait bien d'aller dans le nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, c'est-à-dire à Dehradun. On a un bidonville et il y a des actions à faire, c'est-à-dire que ça serait bien de réfléchir sur un réseau de distribution d'eau dans le bidonville. Mettre en place une formation pour un public d'adolescents.
Ah, alors, j'ai envie de vous poser une question. Comment ça se fait que les autorités locales... Alors, on parle de l'Inde. C'est vrai que l'Inde, par certains aspects, est un pays sous-développé, etc. D'un autre côté, l'Inde envoie des satellites dans l'espace. Faut quand même pas l'oublier.
Oui, c'est un pays entre les deux, quoi.
Et comment ça se fait que, heureusement qu'une ONG soit là pour, dans le nord de l'Inde, essayer de gérer comment la distribution en eau d'un bidonville?
Voilà, après c'est politique, hein. C'est l'Inde, hein. Il y a des castres, donc après j'ai pas les connaissances suffisantes pour aborder le sujet, mais l'ONG en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle intervient dans un bidonville de 10 000 habitants sur des actions de santé.
10 000 habitants, c'est énorme.
Oui, sur des actions de santé, et en fait le principe, c'est que ils ont une maison de protection de l'enfance qui partage avec une autre ONG qui s'appelle WeEcart, et en fait WeEcart fait donne des cours à un public du bidonville pour les enfants, et du coup cette année là, ce qu'on a fait, on est parti à une quinzaine, et donc pareil, hein, tout public, hein. Et l'idée, c'était de faire des consultations médicales. Donc l'ONG a embauché des médecins locaux, des traducteurs locaux, pour faire vivre en fait le local. Et on a fait à peu près 120-150 consultations par jour.
D'accord. Et vous, alors, comment vous avez travaillé, vous, sur comment et le circuit de répartition d'eau, comment elle arrive, la flotte, dans le bidonville, on n'imagine pas.
C'est quoi un bidonville, en fait? Il y a des égouts, non, bien sûr, tout alors, ça, c'est à ciel ouvert, ou...
C'est des terrains avec... Alors là, c'était des constructions en dur. En fait, dans le bidonville, il y a plusieurs constructions. C'est pareil, dans le bidonville, il y a des différentes castres. C'est-à-dire qu'il y a des constructions dures avec des toits en tôle, donc c'est avec des petits trucs qui font 2 mètres de large.
Mais ça, c'est carrément le top, ça.
Oui. Oui. Donc on a cette partie-là. Après, on a la partie du bidonville où c'est tout est en tôle, et on a une partie dans le bidonville où c'est tout est en bâche.
Oh, la vache.
Donc c'est vraiment là, c'est les intouchables. Et là, en fait, nous, ce qu'on a fait, on s'est rendu compte sur place, parce que tout prend une ampleur et tout est compliqué en Inde. On avait des idées de faire des installations d'eau, et en fait, on s'est rendu compte que sur le point de vue local de la ville. En fait, l'État ne voulait pas qu'on intervienne dans le bidonville, super, sauf pour faire des réparations. Donc on a dit, bah tiens, ce qu'on va faire...
Réparer rien. Quand il n'y a rien, on n'a rien à réparer quelque part. Bah, pas grand-chose.
En fait, dans le bidonville, ça fait plein de petites rues, et on a des regards qui font à peu près 30 cm de profondeur sur 30 cm de large. Et en fait, dans ces regards-là, dans ces rigoles...
Oui, c'est quoi... voilà, je crois que vous venez de répondre. C'est quoi un regard
C'est des égouts.
Voilà, c'est ça, à ciel ouvert, en fait.
À ciel ouvert, et en fait, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire que en Inde ils mettent pas les déchets dans la poubelle, ils mettent tout.
Ah, ils balancent carrément
les sanitaires, ça va là-dedans, etc. Et en fait, il y a une distribution d'eau qui date de plus de 50 ans, qui est à fleur de ces regards.
Ah super.
De ces égouts. Et en fait, il y a pas de robinet. C'est pas, ils ouvrent l'eau pendant quelques heures dans la journée. Donc quand ils ouvrent l'eau, bah ça coule en direct dans les égouts. Donc c'est un mélange et ils viennent se servir de l'eau là-dedans. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait en tant que plombier? On y est allé et on a installé, on a rallongé, on a mis des bouts de tuyaux avec des robinets
pour justement faire en sorte que l'eau ne soit plus mélangée.
Ne soit plus en contact, ouais.
D'accord.
Donc ça leur a permis d'avoir un peu plus d'hygiène. Et parce que c'est vrai que les enfants là-bas, en fait, les Indiens en fait travaillent la journée. Souvent les parents travaillent la journée et les enfants sont un peu livrés eux-mêmes dans le bidonville. Et c'est vrai qu'ils baignent, alors ils ont pas toujours des chaussures ou des tongs ou des fois ils sont un peu nu-pieds. Bah ils sont nu-pieds et ils baignent là-dedans, donc c'est pas, sur le point de vue hygiène, c'est moyen.
Oui, on peut rappeler que l'eau, c'est un peu comme les moustiques, hein, c'est un des principaux vecteurs de maladies qui sont diffusés à droite à gauche.
C'est quand même une grosse claque du coup quand on débarque dans un plan comme ça.
Bah, c'est une grosse claque, oui. Alors après, moi, je suis père de famille, hein. J'ai une petite fille, et c'est vrai que
on fait du transfert, du coup.
Bah, inconsciemment, oui et non. C'est-à-dire que ça met une gifle, mais surtout au retour. Après, chacun réagit différemment.
Mmh. Mais donc, on espère, ouais, on s'auto-protège sur place, et c'est après que les souvenirs, enfin, où la situation revient. Enfin, pour vous,
vous étiez peut-être plus dans l'action, peut-être parce que vous avez dit, voilà, bosse.
En fait, les Indiens. Ce qui est génial avec les Indiens, c'est qu'ils ont le sourire. C'est-à-dire qu'ils ont le regard franc. L'instant est sacré pour eux. Ils ont le sourire. Et en fait, ils nous mettent à l'aise. Tout est normal. Mmh. C'est pour eux, ils ont grandi comme ça. Tout est normal. C'est-à-dire que nous, on est là. Bah oui, c'est vrai que on voit des différences de classe sociale et niveau d'hygiène, etc. Vrai, mais alors moi personnellement ça ne m'a pas choqué, il y a des personnes que ça choque, mais moi non, quand on est sur place on est baigné par l'environnement. Donc on ça choque
alors,
pas.
J'ai une question de vieux con à vous poser, mais du coup moi je me dis voilà, j'habite dans le bidonville là, je suis indien, je suis dans la merde, etc. Est-ce que c'est véritablement pour des raisons de dénuement total, c'est-à-dire que le peu que vous apportez c'est déjà énorme par rapport au peu d'argent qui pourrait dégager pour acheter des tuyaux et des robinets, etc. Ou alors est-ce que c'est une sorte de fatalisme, pouf, on s'en sort pas et j'en sais rien.
Bah, le problème c'est que personne prend les initiatives là-bas. Mais malgré ça, en fait, on a fait le tour. Il s'est dit dans le bidonville qu'il y a des Occidentaux qui sont là pour nous aider. Et en fait, on a été accueillis vraiment les bras ouverts. On a même acheté du matériel sur place, hein, dans les petits boui-boui, hein, dans les magasins de plomberie. Et en fait, même les vendeurs, ils ont le commerçant, en fait, il a joué le jeu. C'est-à-dire qu'il nous a fait les robinets prix coûtant. Parce qu'ils savaient qu'on intervenait dans le bidonville. Donc, le problème, c'est que dans le bidonville, on s'est dit, mais le problème, c'est que on installe des robinets, mais ils vont se faire voler. Mais en fait, non. C'est ça.
Oui, parce que
c'est de l'acier, c'est du laiton, ils peuvent
le vendre. Ça peut se revendre, d'accord. Ouais.
Mais le traducteur, en fait, le responsable local, il nous dit non, ils sont tellement en galère, il n'y a pas d'autre mot, hein, en galère, que non, ils vont respecter ça. Après, on n'est pas à l'abri que...
Un enfoiré qui
passe par là et bon, ça sera le tant pis, on y retournera et on verra. Mais pour donner une idée, on a acheté 14 robinets, ça nous a coûté 12 euros.
C'est d'accord. Ici on rigole, mais là-bas c'est une sacrée somme là.
Bah 12 euros, oui, c'est important. Oui, tout à fait. Oui.
Alors du coup, on y viendra tout à l'heure. On s'écoute un petit mix.
Tranquille. On continue parce que j'ai encore quelques questions à poser.
Bye.
laisse ouvert. Voilà, toujours en compagnie de Johan, on est toujours en Inde, toujours là pour essayer de faire quelque chose, en tout cas vous Johan. Je me demande, quand on est confronté à de pareils trucs, pouf, est-ce que depuis, si je suis monsieur Dupuis, monsieur Suant, ça fait 15 jours que je vous attends parce que j'ai une goutte qui tombe, est-ce qu'on serait pas tenté d'envoyer chier ce client-là? Est-ce que ça va pas être mauvais pour le commerce?
Un petit peu, oui.
Hein? C'est bien ce que je me disais.
La technique,
aussi.
C'est de déléguer.
Celui-là, je crois que...
Celui-là, il m'énerve. Bon, vous demandez à votre assistante de prendre le téléphone ou le reste de l'équipe, mais non, c'est un peu le cas. C'est le problème qu'on a quand on revient d'une expérience comme ça.
J'imagine. Alors, plus sérieusement, vous êtes parti avec certains de vos employés. Combien? Et puis, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est eux qui vous ont branché? Ah, oh, bah, je t'accompagnerai bien sur ce truc-là. Est-ce que ça a été sur leur congé? Comment c'est passé?
Alors, en fait, le projet de plomberie là, qui a été monté avec l'ONG nécessitait en fait d'avoir deux plombiers, c'est-à-dire moi et une autre personne. Et j'en ai parlé en fait à l'entreprise, que c'est vrai qu'on est une équipe assez soudée, il y a un esprit un peu familial.
Très soudé, j'allais dire, pour des plombiers.
Pour des plombiers, c'est bien. C'est bien
ça va de soi.
Et on parlera du sourire du plombier tout à l'heure.
Non, parce qu'il paraît qu'il a le slip anti-sourire
du
plombier.
Oui, c'est une particularité de votre société, tout est équipé avec le slip. Vous
anti-sourire
connaissez.
Du plombier.
Voilà, oui, on va acheter ça, mais demain, je vais me faire attraper, oui.
Allez, revenons à des choses sérieuses.
Votre employé, vous en avez parlé, il y a eu un ou plusieurs volontaires.
Alors il y a plusieurs volontaires et là ça s'est bien fait cette année parce que il y a des moments où on travaille beaucoup hein, à l'entreprise, donc il y avait des heures supplémentaires et je lui dis bah tiens c'est peut-être le moyen de récupérer tes heures et tu pars avec moi, c'est comme si t'étais à l'entreprise, t'es payé et tu viens en Inde avec moi.
Ah, et ça genre de RTT un petit peu.
Ouais, c'est un peu. Mmh, oui. Il a dit bah pas de problème. C'est quelqu'un qui a l'habitude de voyager, hein, qui est très avenant, donc il y a pas de souci. Et ça s'est fait comme ça. Et en fait, avec l'ONG, on voulait mettre en place aussi un formateur. Donc là, moi, en faisant partie des compagnons, bah, j'en ai parlé à l'entourage. Et on a, j'appelle ça un jeune, c'est un grand mot parce qu'il a 25 ans. Il y a un ouvrier qui fait son Tour de France, qui est en fin de Tour de France, qui est en train de faire son chef-d'œuvre actuellement. Je lui ai parlé du projet. Tout de suite, il a dit, moi, je suis partant. J'ai vraiment envie de faire une expérience de ce type. Et bah, ça s'est fait comme ça. Et là, on est parti à trois plombiers. Trois Rennais, un de mes salariés et un ouvrier qui est à Rennes, qui travaille dans une autre entreprise.
Comment ils ont réagi
Ça resserre le lien ou ça, on peut s'engueuler aussi sur place?
Vous débarquez, la flotte qui mélange avec la merde et tout. Commence par où?
Bon, on commence pas. Non, mais ça s'est bien, très très bien passé. Là, les plombiers entre nous, ça a été top. Ça, au contraire, ça soudait encore plus les liens, ouais.
Et donc, si vous êtes parti deux fois, vous allez partir trois fois. Donc, c'est quoi le prochain? Toujours le prochain projet? Alors, en Inde ou en Afrique, comme vous souhaitiez à l'origine?
Bah là, en fait, on est en train de monter la mission du compagnon là, qui normalement à partir du mois de juillet, il va partir en Inde. Donc là, lui, sa mission, en fait, ça sera de réparer et de former des gens sur place dans l'Himalaya. L'idée, c'est qu'il aille faire de la formation et des réparations de village en village. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de monter. Il y a des chances que j'y aille faire un petit un aller-retour pour voir comment ça se passe, pour faire du suivi. Après, demain, le responsable de l'ONG me dit il y a des besoins à Madagascar ou en Afrique. Moi, j'ai pas d'attache. L'idée, c'est que si je peux aider des gens et permettre à des populations d'avoir un peu plus de confort et leur donner des moyens de plus s'en sortir, bah pourquoi pas. C'est ça l'idée, en fait.
Alors, je m'étais arrêté aussi, j'avais repéré l'article dans lequel vous apparaissiez dans West France, parce qu'il y a une super jolie photo sur un beau fond rouge de maison, hein, c'est ça, c'est une maison qui était toute rouge. Oui. Vous vous posez en compagnie de vos deux filleules et on voit deux super gamines. Donc, vous avez encore fait plus qu'être plombier, vous êtes parrain maintenant.
C'est ça.
Alors, est-ce qu'on peut parler de ça? Je sais pas, ça s'est passé comment? Ça veut dire quoi, le parrainage?
Bah en fait L'année dernière, quand j'étais dans le Sud-Est, on est intervenu dans une maison de protection de l'enfance, et en fait, ça accueille des publics, des enfants en fait de familles en difficulté. Mmh. Donc, alors après, je peux pas trop te donner de détails sur l'histoire des enfants parce que déjà il y a pas d'utilité, et je les connais pas.
Il y a pas d'utilité, mais c'est comment ça marche et quel est le but.
Alors le principe, c'est que forcément, quand on est allé là-bas, il y a des affinités qui se créent. Hein. On est touché par la façon d'être et l'histoire des enfants. Et l'ONG nous dit, vous avez la possibilité de parrainer un enfant pour 15 euros par mois. J'ai dit, mais à un moment donné, 15 euros, c'est quoi 15 euros?
Le prix de 2 paquets de cigarettes. Vous fumez pas, mais à titre.
Voilà, donc j'ai dit, tiens, je vais en parrainer 3, ça fait 45, c'est 3 fois rien.
Ouais.
Et moi, je peux me sacrifier de 45 euros, sauf que 45 euros en Inde, ça permet de faire manger une personne sur un mois. Ah, donc. Là, les filles, en fait, elles ont plusieurs parrains. Mais bon, à côté de ça, là, il y en a une, par exemple, qui a la sclérose en plaques, donc a des problèmes de santé, et elle a besoin d'avoir des opérations. On est plusieurs parrains. Et c'est pareil, en Inde, même s'ils ont accès à la santé, c'est gratuit. Dès qu'on commence à faire des opérations un peu particulières, ça coûte assez cher, donc on parraine.
Ça va pas être facile d'être une fille, non, en Inde? Peut-être pour ça. Vous avez une fille, vous, personnellement?
Oui.
Est-ce que c'est le fameux transfert, ou est-ce que justement les gamines ont forcément les mêmes chances que les garçons à la base?
Les femmes en Inde n'ont pas la même place que par exemple chez nous. Hein.
Chez nous, c'est on en discutera, un peu trop de place, mais bon.
On va parler de l'Inde.
Oui, on va rester là où les gens sont
civilisés. Non, mais après, on s'étonne qu'il n'y ait pas une fille chez les Grignoux. On peut chercher, après on dit que c'est moi.
Et une petite question pratique aussi, les déplacements, c'est un coût quand même. C'est l'ONG qui prend en charge les déplacements. Et vous,
en avion.
Après, vous êtes bénévole sur place, ou il y a une participation à la base?
Alors, il y a une participation. Me concernant, en fait, moi, cette année, on a fait la mission. On a été sponsorisé. C'est-à-dire que j'ai trouvé des partenaires. C'est des entreprises du coin, de la région rennaise, qui ont participé financièrement, des fournisseurs, des dons de particuliers. Et en fait, là, on est parti à 3. Et j'ai dû rémunérer mon salarié et moi aussi continuer à me payer. Mais sinon, tous les frais annexes, le transport et les frais sur place ont été pris en charge par des sponsors.
Vous pouvez bénéficier de est-ce que c'est utile, par exemple, de collecter du matériel, notamment du matériel de plomberie? Non, parce que c'est
il y a les problèmes de raccord
avec le matos en rosbif.
Il y a ça et le problème de
faut le transporter le matos. Oui,
ouais. Non, là, si les gens veulent faire de l'aide, il y a plusieurs possibilités. C'est par exemple faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire s'inscrire dans l'ONG. Par exemple, là, on est parti avec d'autres bénévoles, donc ils ont accompagné du personnel de santé. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières, hein, c'est-à-dire un métier particulier. En fait, rien que le fait d'être occidental et d'avoir notre propre éducation, on a un savoir-être et des connaissances qui permettent de les aider. C'est là où on a du mal à se rendre compte. Mais sur place, notre éducation, notre façon de faire est très importante.
C'est utile. Par exemple, Jean-Loup et moi, qui ne sommes pas médecins, même pas infirmiers, moi qui m'évanouis devant des tas de trucs, et comment on peut...
Moi, j'ai la main verte.
Si on va... moi aussi, j'ai la main verte, mais comment, je sais pas, moi, est-ce que... Comment on peut aider?
On peut aider
en allant
sur place, mais on peut aider aussi d'une manière, justement.
Non, mais en allant sur place, nous, comment on serait utile, par exemple, Jean-Louis et moi?
Quand on faisait pas de la plomberie, par exemple, ou avec les autres bénévoles, on fait à peu près entre 100 et 150 consultations par jour. Ça veut dire que, les gens, il faut les accueillir. En fait, ils ont pas de carré de santé. Ils ont pas de papier, ils ont rien. Donc en fait, on les accueille avec des traducteurs, on leur crée un carnet de santé pour qu'il y ait un historique, et que les prochaines missions, quand elles interviennent dans les villages, ils puissent avoir un historique sur les médicaments prescrits.
Ouais.
Et donc on les accueille, on les pèse, on les mesure. Après, on fait la régulation, parce que 100 personnes la journée, faut pouvoir organiser les choses. Il y a des personnes qui s'occupent de l'animation. C'est-à-dire que le temps que les parents ont des consultations médicales, faut s'occuper des enfants. faut les détendre parce qu'ils sont toujours un petit peu anxieux. Hein, donc on joue, mais c'est facile le langage international hein, avec les gamins, c'est facile. On joue au ballon, on tape sur l'épaule, on fait style que c'est pas nous et, et ça marche. Et un petit sourire et ça passe. Et donc n'importe qui est capable de faire ça. C'est-à-dire que en fait, il faut faire tomber tous les préjugés et toutes nos craintes, tous les préjugés de classe sociale, etc. Et en fait, s'ouvrir. Et c'est-à-dire que c'est ça qui est génial dans l'humanitaire, c'est que quand on part avec des bénévoles, une fois qu'on a enlevé tous ces préjugés, on découvre les valeurs des gens. On découvre si c'est des belles personnes ou pas. Mmh. Et on est surpris. Mmh. Et c'est ça qui est génial.
Ben alors vous êtes dedans là, dans le, enfin je sais pas, moi je trouve ça admirable.
Là, je vous amène, là, on y va.
Non mais et est-ce que le fait d'avoir été compagnon ça a aidé ou pas? En fait, c'est vrai, on parlait de tout à l'heure le côté un peu humaniste, philosophique du compagnonnage. Ou est-ce que vous êtes comme ça tout simplement, une personne généreuse? Et voilà, on peut être généreux sans avoir été compagnon.
Bah de toute façon, déjà dans le compagnonnage, il y a l'esprit de retransmission, donc on baigne dedans déjà. Mm-hmm. On baigne dedans et on accompagne les jeunes. Donc on aide les gens. Alors c'est une autre manière, hein, mais je pense que oui, il y a des rapprochements. Après, l'humanitaire, c'est faut le vouloir, c'est vraiment personnel. Hein.
On s'écoute un petit disque et après j'aurai.
Et puis après, ça ouais, j'aurai plus de temps, une dernière question ou deux.
J'aurai deux à poser, ma question, mais bête.
Ça sera une.
Non, mais je ferai la même question.
Ouais, non, en fait, ça sera pas de question.
Ah, écoutez, on va régler ça en antenne. C'est parti, le temps de s'écouter le petit disque.
So much confusion. Are you sure that the good guys always win? So much confusion. Misinformation running through my brain. This good battle makes you.
Voilà, toujours en compagnie de Johan et leur tourne plombier humanitaire ou humaniste en l'âme, ou les deux, ou les trois. Et moi, j'ai une petite question pour conclure, une question un petit peu idiote. C'était quoi votre meilleur souvenir et votre pire souvenir dans votre démarche, quelque part?
Meilleur souvenir? Bonne question, parce que tout...
Ah, je sais poser une bonne question auxquelles il est difficile de répondre.
Non, c'est l'ensemble de la mission qui est un beau souvenir.
C'est
l'ensemble de la mission, en fait, les plus beaux souvenirs et la plus belle image qu'on peut avoir, c'est que... ce qui est génial dans ces actions-là, c'est qu'on y va pour donner et on reçoit deux fois plus.
L'accueil le fait de se sentir utile.
Bah utile, on fait de notre mieux. Hein.
Vous sauvez des vies indirectement.
Je sais pas si on sauve des vies, on apporte notre aide. C'est-à-dire que peut-être que nos actions ont permis d'aider des personnes.
Ouais, améliorer la situation.
Améliorer la situation. Après sauver, je sais pas. Ce genre d'expérience, ce qui est fort, c'est que. On reçoit, et ce qu'on reçoit, alors c'est pas forcément à l'instant T, alors si, il y a toujours ce regard, ce sourire, la reconnaissance de Manasté, en fait, quand ils s'en vont, avec, quand on les regarde, le regard, les yeux, veulent dire énormément de choses, ça dépasse les mots. Ouais. Donc ça suffit, c'est cette reconnaissance, mais c'est surtout quand on revient, et quand on prend du recul sur notre situation, sur la vie, et le message qu'a pu véhiculer, déjà premièrement le pays, l'Inde, parce que c'est un pays qui est à part, mais aussi l'humanitaire. Et le plus beau souvenir, c'est ça.
Et le pire?
Bah le pire, y a pas de pire.
Y a pas de pire. Le pire, c'est peut-être de partir, tout simplement.
Ou peut-être pas plutôt de revenir et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, Monsieur Dupuis qui téléphone parce que son évier est légèrement bouché, alors que mon plombier m'avait appris qu'en achetant une espèce de pompe aspirante et en bouchant l'anti-déborde, là, pouf, on s'épargne des tas de produits chimiques.
Est-ce que vous avez des retours, des nouvelles, des gens que vous avez formés, des actions que vous avez faites?
Alors oui, on a des retours des locaux, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, rien que de l'année dernière, il y a encore deux jours, j'ai eu des retours de Tibétains qui me sollicitent aujourd'hui. Le problème, c'est que l'humanitaire, l'aide n'a pas trop de limites. C'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on s'arrête. C'est-à-dire que là, j'ai des sollicitations de Tibétains qui veulent venir à l'Occident, et c'est là où ça devient compliqué.
Parce que là, ça dans ce sens-là,
ça devient compliqué, mais ça se gère, mais des sollicitations, si j'en ai des retours, on en a. Hein. Là, par exemple, il y a un responsable local qui m'a envoyé des messages pour prendre des nouvelles et savoir si on met bien en place la formation cet été. Et rien qu'entre bénévoles, hein, que ce soit l'année dernière ou cette année, on se donne des nouvelles continuellement. Hein.
Et de vos travaux, justement, ces fameux robinets, ils sont toujours là?
Non, alors ça, faut que je pose la question, parce que là, c'est un peu tout frais, mais c'est... oui, je poserai la question, oui.
Ok, eh ben, il nous reste plus que 5 minutes. Je tiens à rappeler que donc l'ONG pour laquelle vous travaillez, ça s'appelle Mission Humanitaire, c'est au pluriel, c'est ça?
Singulier, je crois.
Au singulier, ouais. Mission Humanitaire. On va trouver le logo, on va le mettre. Comment dirais-je? Il faut rappeler que, alors justement, parce que tout à l'heure en antenne, Jean-Loup me disait, ouf, tout à l'heure je vais dire à Johan que je suis trop vieux et puis que je pourrais pas aller. Eh bien, Johan me disait qu'en fait, non, il y a des gens jusqu'à 80 ans qui viennent encore en Inde pour aider. Donc, votre été prochain, vous êtes dans l'Himalaya, Jean-Loup, vous le savez.
D'accord. Et je fais de l'administratif.
Bah, si vous voulez.
Ça peut le faire.
Il y en a.
Il y a par exemple la pharmacie où
de s'il y a des produits, s'il y a des produits, il va tout se mettre dans le nez. Et donc, comment dirais-je, et puis de peur d'être malade, il va tout bouffer. Et on va le ramener avec une cirrhose médicamenteuse.
Donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas fini de voyager à droite à gauche.
C'est quand même le voyage, hein, qu'on a pris du
virus.
À l'humanitaire, oui.
Et dans votre entourage, comment on vit ça, du coup? Alors, vos départs,
Ouais, ça va pas être simple. Pour votre femme, par exemple, devait partir en vacances.
Pour l'entourage, non, les gens se soutiennent. la famille soutient. Et après, c'était l'année dernière avec la petite, il y a toujours des appréhensions parce que j'avais ma gamine à 3 ans. L'année dernière, bon, elle avait 2 ans, elle était un petit peu. Quand je suis revenu, bon, elle est tombée en larmes, mais voilà, au contraire. Quand on revient, bah, on profite encore plus. Ben on a un autre regard de la vie, et là, on profite du moment présent, de l'instant présent, et on profite des proches.
Ben écoutez, ça va être le mot de la fin, parce qu'il va falloir qu'on rentre l'antenne, et on va se terminer par un dernier morceau, clin d'œil, allez, pour détendre un peu
la atmosphère. Il faut bien faire plaisir à Jean-Loup.
Ça fait au moins 20 ans que j'ai pas entendu ces chansons-là.
Ouais, vous avez échappé à Annie Cordy, Tata Yo-Yo. ça, il aime bien aussi, mais heureusement, on n'a pas encore reçu Annie Cordy, donc on échappe à Tata Yo-Yo, mais vous n'échapperez pas à Pierre Perret.
Avec
le plombier.
C'est parti.
Je suis désolé, Yoann.
Et merci d'être venu.
Je suis désolé.
Je suis le plombier, j'ai un beau métier. Je fais mon turbin, bain, dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'aube à l'aurore. Je colmate les tuyaux, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau. On m'attend pendant des mois, on me réclame, on m'apitoie, et on insiste à genoux, venez donc chez nous, venez donc chez nous. On m'appelle d'urgence au-dessus, on me supplie de venir en dessous. Il y a des immeubles cossus, sans dessus, dessous, sans dessous, dessus. Je suis plombier, pied, j'ai un beau métier. Je fais mon turbin, bain, dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'aube à l'aurore. Je colmate les tuyaux, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau. Y'en a qui se tirent à Monaco sans fermer les robicots. Quand ils retrouvent leur salle de bain, y'a de quoi baptiser une armée de païens. J'amène mon collègue Henri qui change les moquettes pourries. Et on partage le bénef. Dans cette combine-là, on bosse comme des chefs. Je suis le plombier, bien, j'ai un bon métier. Je fais mon turbin, bain, dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'aube à l'aurore. Je colmate les tuyaux, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau. L'autre jour, je vais chez un client qui se lavait plus depuis longtemps. Il me dit mon chauffe-eau marche plus, y a même pas un mois que vous me l'avez vendu. Je dis hélas ça se répare pas, on fait plus ce modèle là. Y a plus de pièces, y a plus de main d'œuvre. Moi je dis à votre place je m'en paierai un neuf. Je suis plombier, pied, j'ai un bon métier. Je fais mon turbin, bain, dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'aube à l'aurore. Je colmate les tuyaux, je guéris tous les maux de mon petit chalumeau. Quand une belle cliente me dit, ma chaudière s'est refroidie. Mon mari est en voyage, c'est lui d'habitude qui me réglait le chauffage. Je déballe tous mes outils, mon label de garantie. On échange nos groupes sanguins et c'est le seul cas où je reviens le lendemain. Je suis le plombier, pied, j'ai un beau métier. Je fais mon turbin, bain, dans les salles de bain. Il faut qu'on m'implore de l'aube à l'aurore. On m'appelle en mars et je me pointe en juin pour changer un joint. Je suis le plombier, pied, j'ai un beau métier.